Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va parler de ses 40 ans d'histoire. Celle d'abord de la petite fille de 6 ans qui a quitté ses parents, qui a quitté son pays pour aller à la découverte d'autres choses. Et puis celle de la femme d'aujourd'hui face à l'une des plus grandes personnalités de ce monde politique. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Hanan Harat, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Hanan?
Ça va très bien, tout va bien.
Alors Hanan, tu as posté récemment une photo, une double image. Plutôt, c'est une image en fait qui traduit ton parcours et qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Celle de la petite fille de 6 ans arrivée en France, partie du Maroc, et celle de la jeune femme qui interviewe le président de la République française, Emmanuel Macron.
Oui, absolument, oui.
Ouais. Combien d'années se sont écoulées entre les deux images, les deux photos ?
40 ans tout juste.
40 ans tout juste. Et oui. Alors, à 6 ans, tu quittes le Maroc, c'est ça ?
Oui, à 6 ans, je quitte le Maroc dans le cadre d'un regroupement familial, pas avec mes parents, avec mon oncle et mon oncle paternel et ma tante maternelle. Voilà, j'ai le frère de mon père qui a épousé la sœur de ma mère, donc je partais avec mon tonton et ma tata. Okay. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Plus tard, j'ai réalisé, en grandissant en France, que ça se faisait beaucoup dans certaines familles qu'on emmène un neveu, une nièce avec soi. Okay. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis partie. Mes parents émigreront quelques années plus tard à leur tour, mais pas en France. Ils s'installeront aux Pays-Bas. Et donc, c'est dans ce cadre que je me retrouve effectivement en France à l'âge de 6 ans. Je pars à Gouinée quelques petits mots de français, parce que l'école maternelle ici au Maroc, j'étais chez les sœurs, mais j'étais pas du tout, je savais pas du tout où j'allais atterrir. Dans ma tête d'enfant de 6 ans, il y avait de l'excitation, mais surtout beaucoup de points d'interrogation. Et voilà, je me souviens de mon premier jour de classe, chose extraordinaire en Normandie, puisque c'est en Normandie que j'ai grandi, il pleuvait, donc j'avais un manteau avec capuche, et au moment d'accrocher les manteaux sur les porte-manteaux dans le couloir avant d'entrer en classe, la maîtresse me dit non mais accroche-le par la capuche, et moi j'avais aucune idée de ce que c'était une capuche.
Ouais.
J'avais essayé par la manche, par les boutons, par les boutons, et puis finalement j'ai compris ce qu'était une capuche, donc voilà, c'est une anecdote comme ça que je garde de ces premiers moments là-bas.
Alors Hanan, quand même partir à l'âge de 6 ans, quitter son pays, mais quitter aussi ses parents en fait. Tu as dit il y avait l'excitation du départ, partir ailleurs, partir en France, mais tu partais pas avec tes parents, tu partais avec ton oncle et ta tante.
Mais je le réalisais pas à 6 ans, en fait on réalise pas tellement, c'est plus tard, c'est en grandissant un peu plus tard que oui j'ai réalisé que j'avais laissé mes parents et mes frères, mais la vie a bien fait les choses puisque finalement ils se sont rapprochés. Quand ils étaient au Maroc, je pouvais les voir qu'une fois dans l'année. Il n'y avait pas tous ces moyens de transport et ces possibilités de voyager, ni même de se parler, hein, qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile, mais quand ils se sont installés aux Pays-Bas, les choses sont devenues beaucoup plus simples, puisqu'on arrivait à se voir à chaque vacances scolaires. Mon père était enseignant, donc on arrivait à avoir un peu les mêmes temps de vacances, et ça nous permettait de nous retrouver plus souvent dans l'année. Mais c'est vrai en revanche que le fait de ne pas avoir grandi avec eux très tôt, évidemment il y a une forme de tristesse, et j'avais décidé très jeune dans ma tête que il fallait pas que ça serve à rien, et je m'étais promis de faire les meilleures études que je pourrais, quelles qu'elles soient, sauf la médecine, parce que vraiment j'étais nulle dans les matières scientifiques, mais je m'étais dit je ferai le plus loin possible, je pousserai les études jusque plus loin possible pour que ce sacrifice n'ait pas servi à rien. Aujourd'hui, du haut de mes 46 ans maintenant, voilà, si on me demandait ce que j'aurais aimé faire plus jeune, je répondrais sans doute libraire ou comédienne de théâtre ou vivre au milieu des livres. Mais à l'époque, je m'étais fait un devoir de réussir à l'école à cause de ce parcours.
Alors, justement, tu as dit très petite, je ne réalisais pas. À quel moment tu as compris en fait que tu étais loin de tes parents, que tu n'étais plus avec eux, qu'ils allaient avoir une vie et que tu allais en avoir une autre? Et en même temps, quand tu dis petite, je réalisais pas, je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui on parle tellement de la psychologie de l'enfant, du bien-être de l'enfant, etc., mais on a l'impression que aujourd'hui, les gens culpabilisent beaucoup à l'idée de laisser leurs enfants, ou on se dit qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus fragiles qu'avant. Mais à t'entendre parler, tu n'étais pas cet enfant fragile.
Mais j'étais touchée, mais je pense qu'après, c'est une question peut-être de personnalité, de tempérament ou de caractère. Moi, je crois très fort en la capacité à l'être humain à transformer les épreuves en source d'inspiration et à se relever, etc. Moi, j'avoue, peut-être ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que je lisais énormément avec les livres. M'ont donné une ouverture, une appétence pour la culture, pouvoir voyager un jour, voir d'autres choses. Je pense que les livres m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à traverser cette période-là et à m'inventer, à m'imaginer la vie que je rêverais d'avoir à travers tous ces personnages que je rencontrais dans les livres. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout les parents qui sont fragiles parce qu'on les culpabilise tellement par rapport à tout. Ce qui peut concerner l'éducation de l'enfant. Je me permets pas d'en parler beaucoup parce que je n'ai pas d'enfant moi-même, mais ce que j'observe autour de moi, c'est qu'il y a une culpabilité des parents à mal faire. Des fois, j'ai envie de leur dire, mais quoi que vous fassiez, ils auront quelque chose à vous reprocher plus
Reprocher
tard. Il n'y a pas de
absolument.
parentalité parfaite. Il faut donner des outils pour que, en revanche, même si vous vous trompez sur certaines choses, l'enfant puisse se sentir en confiance et se construire quand même. Après, la deuxième chose que je souhaitais dire pour cette question, c'est ça vous rattrape d'une certaine façon. Moi, j'ai réagi à ces émotions que j'avais en étant forte et en me projetant dans les études, en m'appuyant sur les livres, des profs extraordinaires aussi que j'ai rencontrés, qui m'ont guidée, que je n'oublierai jamais. Mais plus tard, à l'âge adulte, bien sûr, il y a des blessures émotionnelles qui ressortent. Et je pense que tous, dans notre enfance, et même quand on a une enfance rêvée avec des parents aimants et des frères et sœurs, il y a toujours des blessures. Parce que dès lors qu'il y a des frères et sœurs, il peut y avoir un sentiment d'injustice, il peut y avoir un sentiment de rejet par rapport à l'autre. Donc, il y a des blessures émotionnelles, personne n'en est exempt. On est tous des névrosés à un moment ou à un autre quand on arrive à l'âge adulte. Et donc, il m'a fallu à un moment identifier quelle était la blessure émotionnelle qui me conditionnait et qui conditionnait mes rapports dans plusieurs domaines de ma vie, privés comme professionnels, et les surmonter. Et une fois que ça a été fait, voilà,
Ça fait
ma
pas
vie a
peur de se,
continué.
de se regarder comme ça, de se dire, bon ben, je sais qu'il y a un truc qui va pas, et est-ce que ça fait peur de prendre ce pas?
Un peu, mais j'ai envie de dire qu'à un moment, on n'a pas le choix.
Choix,
Et
absolument.
que quand on réalise qu'il y a des
Des
mécanismes
conséquences,
qui se
oui.
répètent avec des conséquences lourdes, on se dit, mais en fait, la douleur de les vivre de manière répétitive à travers différents moments de sa vie, elle est beaucoup, beaucoup plus forte et insupportable que la peur à se prendre en main, c'est pas nécessairement un psy ou ça peut être des lectures. Moi, ça a été beaucoup de lectures au début sur les blessures émotionnelles. Moi, j'avais identifié la mienne sur les thérapies douces. Il y en a beaucoup qu'on peut explorer. Et en fait, c'est juste de se dire si j'ai envie de me donner une chance d'être encore plus heureuse. Bah, il faut bien que je traverse ça. Et c'est vraiment transformateur et j'encourage toutes les personnes qui se sentent bloquées par quelque chose qui vient du passé ou d'un rapport douloureux à certaines personnes qui comptent le plus pour nous. Bah, il faut le faire parce que c'est une telle libération qu'après, quand on regarde en arrière, on dit en fait la peur, elle était toute minime par rapport à toutes les conséquences que je risquais d'entraîner en ne prenant pas ça en charge.
Plus tu vas mieux à l'intérieur et plus tu réussis professionnellement, Hanan?
En fait, plus on se sent mieux intérieurement, plus la peur disparaît et plus on va à l'exploration de soi-même. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire la réussite parce qu'elle peut prendre tellement de formes. Pour
Absolument.
moi, si je devais la définir aujourd'hui, c'est juste de sentir que l'on fait c'est qui nous fait le plus de bien au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Et ça veut dire tamiser, ça veut dire savoir les lieux qui sont pour nous, les personnes qui sont pour nous et celles qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'on les éradique, parce que bon, on ne peut pas choisir avec qui on est tout le temps, et parfois même dans ces cercles les plus proches. Mais c'est en tous les cas de vivre avec beaucoup plus de paix. Et voilà, et je pense que c'est juste... Moi, j'adore cette phrase de Nietzsche que j'ai lue quand j'étais adolescente, « Deviens ce que tu es ». Et je crois qu'on n'a rien d'autre à faire dans la vie que
devenir,
devenir ce que l'on est. De 0 à 99 ans, comme c'est écrit souvent dans les jeux de société, c'est de 0 à 99 ans, c'est un chemin qui ne s'arrête pas de devenir toi-même. Il n'y a pas de fin à ça. Oui. Et je crois que la réussite, pour moi, au niveau personnel, elle est là. Et il n'y a pas de réussite professionnelle, pour moi, sans réussite personnelle. Parce que si on n'est pas aligné professionnellement avec ce que l'on est, on est dans une forme de décalage par rapport à soi. Donc pour moi, c'est d'abord la réussite personnelle et savoir, savoir devenir qui l'on est au fur et à mesure. Et on n'est pas les mêmes à 20 ans, à 40 ans et à 60 ans. Être toujours curieux et toujours, toujours chercher cette paix.
Hanan Haret, alors justement, toi, tu as grandi dans une famille. Ta famille à toi a évolué dans un autre pays, ce qui donne forcément deux langues différentes. Est-ce que ça ne sépare pas davantage, non seulement la séparation géographique, mais aussi la séparation linguistique, parce que tes frères ont grandi en Hollande, c'est deux langues différentes. Est-ce que ça vous a séparé davantage?
Alors, pas tellement, parce qu'on est réunis par la Darija, à la maison, que ce soit chez mes parents ou chez mon oncle et ma tante, qui sont mes deuxièmes parents, et mes petites sœurs, parce que mon oncle et ma tante ont eu deux petites filles qui sont mes petites sœurs. On parle Darija, donc ça nous réunit. Là où je vois aujourd'hui la séparation, et je pense que notre famille n'est pas une exception, c'est dans beaucoup, beaucoup de familles marocaines et parmi la diaspora, c'est maintenant, je le vois avec mes neveux et mes nièces qui sont aux Pays-Bas et qui, eux, parlent moins Darija. Et là, on est obligé de passer par l'anglais, ou alors ils comprennent ce que je vais leur dire, mais ils ne vont pas forcément savoir me répondre, même si mon frère essaye et mes parents leur parlent en Darija. Mais c'est là où on voit qu'il y a une pas une frontière, c'est pas un mot que j'aime, le mot frontière, mais qu'il y a plus de difficultés à communiquer. Mais avec mes frères ou mes parents, ça n'a jamais été un problème, puisque la Darija a été... la langue parlée à la maison. Et puis, on avait la chance de venir au Maroc tous les étés et d'y passer 2 mois. Donc forcément, avec les cousins, les grands-parents et ici, on était obligés, ne serait-ce que pour aller à Ndemoud Lhanout, de parler Darija.
Alors, quand on a grandi avec deux parents, en fait, deux familles, deux couples de figures parentales, on sait que quand les parents prennent de l'âge, les rôles s'inversent, en fait. On devient... les parents de nos parents, ne serait-ce qu'émotionnellement. Est-ce que tu te retrouves à être parent de deux figures parentales, en fait, de quatre figures parentales en réalité, de deux couples parentaux?
Oui et non. Oui, dans le sens où émotionnellement, comme tu le disais si bien, on est présent. Et mon oncle et ma tante ont leurs enfants... mes petites sœurs qui sont encore en France avec eux, mes parents, mes frères qui sont encore avec eux. Moi, je suis rentrée au Maroc. Et en fait, mon parcours, ça a toujours été, même si j'ai effectivement deux noyaux familiaux, c'est bizarre à expliquer. Je me suis toujours sentie très, très proche et en même temps à part. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Mon oncle et ma tante en France et leurs deux petites filles sont devenues françaises. Mes parents et mes frères sont devenus hollandais. Je suis la seule qui ait un passeport marocain et qui soit rentrée au Maroc. J'ai mon petit frère aussi qui s'est installé au Maroc. Mais voilà. Et en fait, je me suis toujours sentie un peu en même temps très proche et très choyée et très privilégiée de pouvoir avoir deux familles. Et en même temps, voilà, j'ai quitté la maison quand j'ai eu 18 ans parce que mes études imposaient que je parte vivre un peu plus loin. Et je ne suis jamais revenue vivre dans la maison. Donc, j'ai aussi pris mon envol très tôt. Donc oui, quand le besoin est là et quand les occasions importantes sont là, on est réunis et on est là et on est un support émotionnel. Mais c'est vrai que la distance aussi, le fait qu'eux vivent là-bas et moi aussi, ça rend plus difficile le fait d'être présent au quotidien. Et ça, je le regrette un peu.
Même si, en réalité, tu es l'aînée, en fait, des deux noyaux familiaux.
Alors, de mes petites sœurs, oui.
Oui.
Du côté de mes frères, non, j'ai un frère aîné.
D'accord. Tu as réussi à prendre, quand on dit ton envol, mais c'est aussi ton envol émotionnel.
Oui, et il n'est pas simple, hein, parce que, bien sûr, par exemple, tu as bien fait de le rappeler, le rôle d'une fille, souvent, est un peu différent de celui des frères.
Ouais.
Dans une fratrie, quand il s'agit du soin aux parents. Moi, j'ai la chance d'avoir mon grand frère qui habite vraiment à côté de mes parents, et je le remercie tous les jours parce qu'il est là et qu'il est très présent pour eux, et que chaque fois qu'il se passe quelque chose, il est le premier à être là. Mais c'est vrai que, par exemple, pour ma mère, je sais que c'est difficile de savoir que sa fille est loin, que peut-être parce que ce choix a été fait de m'envoyer en France très tôt. Aujourd'hui, elle est privée d'avoir une fille qui est plus proche. Donc, voilà, je sais que cette douleur est là. Mais quand je parlais tout à l'heure aussi du chemin à faire, je pense qu'il y a des douleurs qui sont les nôtres. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas effacer et il ne faut pas les combler. Je ne pense pas qu'on puisse les combler. Mais les compenser, apporter autre chose à côté, d'autres formes d'amour, de présence, et puis compenser par tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que cette douleur ne soit pas trop forte.
Vous en avez parlé, vous avez un moment ou un autre parlé de ça, de la joie que tu avais en tant qu'enfant à aller ailleurs, mais de ne pas comprendre la portée, d'avoir été finalement séparé de tes parents. Est-ce que tu as compris pourquoi on a fait le choix de toi et pas de ton aîné, par exemple? Parce que avant, ça se faisait beaucoup aussi dans les familles, c'est-à-dire on prenait un enfant, on le confiait à un oncle, à une tante, etc. Mais pour en avoir parlé avec beaucoup de personnes, mais aussi également dans mon cercle privé, on ne va pas forcément essayer de comprendre pourquoi le choix de pourquoi moi et pas mon frère et pas ma sœur et pas... Pourquoi moi
oui,
en particulier?
Bien sûr, c'est une question que je me suis posée quand j'ai entamé ce travail. Je l'ai entamé tardivement. Hein. Je l'ai entamé à 36 ans, 37 ans. C'était une question qui me poursuivait. Moi, j'ai fait le choix de ne jamais parler à tous les membres de ma famille de ce que je pouvais ressentir par rapport à ça, pour les épargner, parce que je ne voulais pas que ce soit se sente coupable, parce que je n'oublie pas aussi tout ce que m'a apporté cet exil. Même si je ne le comprenais pas dans mon jeune âge et surtout à l'adolescence, mais je mesure aussi tout ce que ça m'a apporté. Je ne veux pas que qui que ce soit se sente coupable. Après, même à l'âge adulte et quand j'ai fait ce chemin un peu de compréhension, j'ai fait le choix de ne pas en parler parce que je me suis dit ça m'appartient, je l'ai réglé. Et en fait, ça me fait très drôle de parler de tous ces sujets parce qu'on vit dans une culture qui est aussi très pudique et on ne peut pas trop remettre en question les choix des parents ou expliquer ce qu'on a ressenti ou ses émotions. On le devine, on le voit, mais on n'en parle pas. Et la question, moi, j'ai trouvé la réponse. J'ai fait une expérience de thérapie, je peux en parler ouvertement, c'est les constellations familiales.
Ouais.
Et j'ai trouvé ma réponse de pourquoi moi. Et après, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas ma propre vie à moi, et je n'ai pas voulu aller chercher plus loin parce que je respecte aussi ce qu'ont pu vivre les gens de mon famille. Puis après, je me suis intéressée à la psychogénéalogie, donc j'ai aussi compris pourquoi certaines choses se répétaient. Et une fois que j'avais compris, je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin.
Ouais, ouais.
Je me suis dit, j'ai compris pour moi. Je ne peux pas forcer les autres à vouloir comprendre aussi. Je ne peux pas les confronter par mes mots à ce qui a été fait. Le plus important, c'est que moi, j'ai compris et qu'aujourd'hui, à partir de ce que je suis, je peux leur donner tout l'amour dont ils ont besoin. Et ça m'a suffi.
Oui. En fait, quand on voit une réussite professionnelle, on dit derrière que c'est un long chemin tranquille, en fait.
Je pense que les gens, souvent, ont besoin de choses simplistes, ont besoin de... Et puis, je sais pas ce que les gens pensent au final. Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on dégage et ce qu'on est. Moi, je dis toujours, quand je rencontre des étudiants, etc., je leur dis toujours travailler sur vous-même, rapprochez-vous de vous-même, soyez dans votre nature profonde. Moi, pour moi, l'être humain, c'est, C'est l'âme humaine, c'est de la joie, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour. Donc c'est ce qu'il faut cultiver. Quand on n'est pas là-dedans, c'est qu'il y a une raison extérieure qui nous empêche de cultiver ça. Donc il faut y revenir. Et puis, travailler très sérieusement sans jamais se prendre au sérieux.
Sérieux,
parce
absolument.
Que tout est éphémère, rien n'est dur. La réussite est très relative. La réussite pour l'un est peut-être juste la première marche pour l'autre et vice-versa. Quelqu'un qui va monter une petite marche aura l'impression, ça y est, de s'être accompli et c'est très heureux pour lui. Donc, tout ça, pour moi, est relatif. Ce qui est important, alors, par rapport à cette interview en particulier, parce que les gens m'en parlent beaucoup, même si moi, j'ai déjà fermé cette séquence, elle a été une expérience professionnelle où j'ai beaucoup appris. Mais moi, ce qui m'a surtout touchée dans cette expérience, c'est ça, c'est le fait d'avoir grandi en France, d'avoir rêvé enfant en regardant Anne Sinclair à la télé tous les dimanches soirs. Je voyais cette femme incroyable, le regard pénétrant, assise en face des plus grands hommes politiques de l'époque et parfois même de chefs d'État, dont Feu Hassan II, d'ailleurs, ça m'avait beaucoup impressionnée. Et qui, à l'époque, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de reportage, il n'y avait pas d'illustration. Elle était vraiment en tête à tête avec eux pendant 52 minutes et j'étais impressionnée par ça. Et en fait, voilà, de me dire, en ayant grandi en France, dans une famille modeste, et en me faisant la promesse d'étudier, bah, que je puisse, depuis mon pays, parce que ça aussi, ça a été important pour moi. À un moment, j'ai quitté la France parce que professionnellement, j'étais confrontée à un plafond de verre et je sentais que je ne pouvais pas développer tout mon potentiel. J'ai eu l'opportunité de revenir au Maroc et je suis revenue. Mais pour moi, je ne vis pas cette interview comme une revanche du tout. Je ne me dis pas, voilà, j'ai pas pu faire ce que j'aimais en France ou comme je le voulais. Et c'est pas du tout une revanche. Au contraire, ça a été avec beaucoup de paix intérieure, comme si la boucle était bouclée, de me dire, mais en fait, ce pays-là m'a tant donné et je suis profondément attachée à ce pays qu'est la France. Et c'est aujourd'hui, depuis mon pays d'origine et de naissance, le Maroc, que je peux interviewer le président de ce pays. Et ça a été, oui, c'était comme une harmonie. Je ne sais pas comment vous dire, il n'y avait pas d'esprit de revanche, ni rien du tout. Et symboliquement, le fait que ça se fasse dans le cadre aussi d'une visite de réconciliation entre pays, moi qui aime lire des signes un peu partout, ça a encore plus ajouté à ce sentiment de paix et d'harmonie.
Eh bien, Hanan Harat, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de ce podcast féminin.
Merci à toi Yasmine. Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.